بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 14 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى de ce livre, donc qui est un sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan حفظه الله تعالى. Donc on continue le cours 14, comme je disais, à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Donc on va donc faire quelques minutes, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit maintenant, à propos de ce point-là, à propos du hadith de Mu'adh, radiyallahu anhu, lorsque Mu'adh était à Dodan avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Alors il a dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est que s'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui dans l'adoration, eh bien, il ne doit pas les châtier. Il ne doit pas les châtier. Et donc le cheikh, il va expliquer maintenant ce hadith-là, qui est un hadith authentique. Donc il dit: فقال لي يا معاذ هذه هي الدعوة إلى الله فالعالم يدعو إلى الله الأفراد والجماعات ويستغل الفرص أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه عن طريق السؤال والجواب أن هذا أوقع في النفس، ولأجل أن يستثبر ذاكرته ويستحضر ذهنه، كما جاء جبريل عليه السلام يعلم الصحابة رضي الله عنهم دينهم عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون، فهذه طريقة جيدة في التعليم. Donc le cheikh dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé à Mu'adh: oh Mu'adh, il lui dit ça c'est dans le but de lui faire la da'wa, de l'inviter à Allah. Et donc le savant, il doit toujours inviter les hommes à Allah, que ce soit des individus ou des groupes. Il essaie de profiter des occasions qui se présentent comme ça pour appeler les gens à Allah. Surtout quand quelqu'un il est avec toi sur ta monture ou bien dans ta voiture, tu l'amènes quelque part. Donc tu profites de cette occasion-là pour lui parler d'Allah, pour lui parler de l'islam. Et donc tu lui fais la da'wa. Et donc ici, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il lui a demandé: est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui apprendre par une méthode qui est la méthode de la question et réponse. Ça, c'est une méthode d'enseignement. Il dit que la raison pour laquelle il emploie cette méthode, c'est parce que c'est une méthode qui fait en sorte que la connaissance, elle va rester dans l'esprit plus facilement et tu vas la mémoriser plus. Parce que tu dois, donner toute ton attention, parce qu'on te pose une question. Souvent, quand tu sais que tu vas être questionné, tu te mets prêt, t'es attentif. Peut-être même que tu es nerveux. Vous savez, quand c'est des examens, à l'école, vous êtes nerveux, inquiet, un peu anxieux. Mais aussi, pourquoi? Parce que vous savez qu'on va mettre votre connaissance à l'épreuve et on va vous tester. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani sans préparation, sans préparation, juste il lui explique les choses et il lui demande une question générale comme ça. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Et donc il utilise la question de questions et réponses, comme Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu voir les sahaba ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a enseigné les sahaba par la question et réponse. Donc Jibril alayhi salam il est venu, il a dit akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, hein, mata as-sa'a, akhbirni an amaratiha. Donc il est venu, il pose des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Ça fait en sorte que, wa alaykum salam wa rahmatullah, ça fait en sorte que la réponse elle va être, hein, plus ancrée solidement dans l'esprit de la personne. Peu importe que la personne sache la réponse ou non. Peu importe que la personne sache la réponse ou non, parce que la personne elle va, elle va comme réfléchir à cette question-là. Même si c'est pas à toi que je te demande, si je demande à Hakim, c'est quoi le droit d'Allah sur ses créatures? Toi, tu sais, toi, peut-être que tu sais la réponse. Toi, peut-être que tu sais la réponse. Toi, peut-être que tu sais la réponse. Peut-être que le frère Yaqub, il connaît la réponse. Et Hakim, peut-être qu'il la connaît aussi, ou peut-être qu'il la connaît pas. Mais il est en train de, hein, c'est, comme on dit, les engrenages commencent à tourner. Hein, oui, les bobines commencent à fonctionner dans la tête. Il essaie de réfléchir. Qu'est-ce que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Qu'est-ce que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Qu'est-ce que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et il se pose la question, il essaie de réfléchir. Et pendant ce temps-là, les autres qui sont en train d'écouter, eux aussi, ils se posent la question. Hein? Donc, Hakim, lui, est-ce qu'il donne la langue au chat, comme on dit au Québec? Oui, c'est ça. D'adorer lui seul sans rien associer avec lui. Ça, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Donc, tu vois, ça, vous n'allez pas l'oublier après. Parce que c'est resté dans votre esprit maintenant. On vous a fait travailler. On vous a fait réfléchir. Vous êtes posé la question. On vous a donné la réponse. Même si dans votre esprit, vous aviez une autre réponse, le fait d'entendre la bonne réponse maintenant, ça fait en sorte que ça va rester dans votre tête. Vous n'allez pas l'oublier, Inch'Allah. Donc, ça c'est la première question. Et après, il lui a demandé, et quel est le droit des créatures sur Allah? Donc, le cheikh, il dit, ça c'est une bonne méthode d'enseignement. Il dit, قُلْتُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Regardez, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه يقول الله ورسوله أعلم وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم الله أعلم ولا يتحرض ولا يتخرص بعضه ولا يتخرص وبعد أن قال معاذ رضي الله عنه ذلك تطلع إلى الإجابة بعد أن قال معاذ رضي الله عنه ذلك تطلع إلى الإجابة ووجه ذهنه لما ألقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الذي خلقهم من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهو لم يخلقهم ليرزقوه لم يخلقهم ليرزقوه أو ينفعوه ما خلقهم إلا لعبادته وعبادته سبحانه راجع إلى نفسه أو راجع إلى نفسها إليهم أيضا أو إلى راجع نفعها إليهم نعم. وعبادته سبحانه راجع نفعها إليهم أيضا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، ولم يقتصر عن الأمر بعبادته، قال ولا تشركوا به شيئا، لأن الإنسان قد يعبد الله لكنه يخلط عباده بشرك، وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص عن الشرك، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد مع عبادة الله سبحانه وتعالى من ترك الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أبطلها وأفسدها ولو كانت لله عز وجل. وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشرك حتى تؤدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك، وهذا حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو أول الحقوق، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فبدأ بالتوحيد الذي هو حق الله وحق العباد على الله، وهذا الحق تكرما منه وتفضلا هو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم ولم يوجبه عليه أحد، خلافا للمعتزلة الذين يقولون يجب على الله كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك. Donc on va expliquer la suite de ce hadith. Donc le cheikh il explique, il dit que Mu'az, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question qu'on a mentionnée tout à l'heure, est-ce que tu sais le droit d'Allah sur ses serviteurs, est-ce que tu sais le droit des serviteurs sur Allah, et il a dit Allah et son messager savent mieux. Et le cheikh ensuite il dit, j'ai dit ô messager d'Allah, Allah et son messager savent mieux. Et il dit, ça c'est la preuve que l'être humain, lorsqu'on lui pose la question et qu'il ne connaît pas la réponse, eh bien il dit, Allah et son messager, c'est mieux. Il dit, ça c'est la réponse qu'il donne quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore en vie. Mais après sa mort, il ne va pas dire, Allah wa rasuluhu a'lam. Comme aujourd'hui par exemple, si je te demande quelque chose, tu ne vas pas dire, Allah wa rasuluhu a'lam. Tu vas dire, Allah wa a'lam. Pourquoi? Parce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit seulement Allahu a'lam, pas Allahu wa rasuluhu a'lam. Et il dit, on va pas commencer à essayer de deviner, faire des devinettes ou des choses comme ça. Non, si tu sais pas, tu dis Allahu a'lam. Et le cheikh il dit, donc il lui a dit donc. Après que Mu'adh a dit « Allahu wa rasuluhu a'lam », il lui a donné la réponse, après avoir fait travailler son esprit pour essayer de voir qu'est-ce qu'il aurait pu répondre, il lui a donné la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit directement « Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. » Et ça, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Comme il le dit dans le verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc il ne les a pas adorés, il les a pas créés pour qu'ils lui donnent de la subsistance ou pour qu'ils lui fassent un bien quelconque. Allah, il n'a pas besoin de ses créatures. Parce que souvent les êtres humains, par exemple, quand ils ont à leur service d'autres hommes, d'autres créatures, ils les mettent à leur service pour obtenir d'eux quelque chose. Par exemple, un être humain, il va avoir des servants, il va avoir des esclaves, il va avoir des gens qui travaillent pour lui. Tout ça, c'est pour que ça revienne avec un bien pour lui. Et il leur demande à eux de lui faire du bien, ou de lui ramener des biens, ou de lui donner des biens, ou de faire quelque chose de bien pour lui. Parce qu'il a besoin d'eux aussi en même temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a des serviteurs et des esclaves, et il est le maître de tout, mais il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Et c'est pas pour s'enrichir par ses créatures qu'il les a créées, et c'est pas pour obtenir d'eux de la subsistance qu'il les a créées, et c'est pas pour obtenir d'eux un bienfait quelconque qu'il les a créés. Il les a uniquement créés pour son adoration à lui, et il dit même cette adoration-là qu'il nous a ordonné de lui vouer et de lui donner, eh bien cette adoration-là, le bien qui en découle, il n'est pas pour lui, il est pour nous. Le bien qu'on fait quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait qui revient à nous-mêmes, pas à Allah. Donc il nous ordonne de l'adorer pour notre bien à nous, subhanallah. En ce qui lui concerne, lui, il est ghaniyun, il est riche, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin ni de nous, ni de notre adoration. وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْأَمْرُ بِعِبَادَتِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas limité juste à dire « Adorez-moi ». Il leur dit aussi en même temps « Et n'associez rien avec moi ». وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est possible qu'il adore Allah, mais qu'il mélange dans cette adoration-là du shirk. Et donc à ce moment-là, cette adoration-là, elle ne sera pas valable. Jusqu'à ce qu'elle soit purifiée du shirk qui est mélangé avec, ou qui est dedans. Et donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Ne faites pas du shirk avec lui. Et dans l'autre verset, adorez Allah seul et écartez-vous du ta'arut. Le ta'arut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le shaykh, il dit, il faut absolument, avec l'adoration d'Allah, l'abandon du shirk. Il faut absolument délaisser le shirk. Parce que le shirk, lorsqu'il rentre dans une adoration, il la détruit. Il détruit cette adoration-là et la rend vaine et nulle. Même si elle était à la base faite pour Allah. Même si quelqu'un il prie pour Allah, il fait cette adoration pour Allah, mais que dans son adoration il y a du shirk, eh bien, et cette adoration-là, elle n'est plus valable, elle n'a plus de valeur. وَهَذَا يَسْتَدْعِي أَن تَتَعَلَّمْ مَا هِيَ الْعِبَادَةَ الصَّحِيحَةَ وَمَا هُوَ الشِّرْكُ حَتَّى تُؤَدِّي الْعِبَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَتَتَجَنَّبَ الشِّرْكَ. يعني هذا حق الله عز وجل على عباده وهو أول أول الحقوق. Donc le cheikh il dit, donc le fait que Allah ordonne d'adorer lui seul et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, ça exige de notre part qu'on étudie et qu'on apprenne l'adoration qui est authentique, qui est exacte. Et il dit wa huwa ash-shirk. Donc il faut apprendre donc qu'est-ce que c'est l'adoration et qu'est-ce que c'est le shirk. Et ça c'est même une des manières que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il nous a même enseigné d'argumenter avec les adorateurs des tombes et les gens qui font du shirk et des bid'ah dans la religion. Dans le livre qui s'appelle Kashf al-Shubuhat. Vous connaissez Kashf al-Shubuhat? Tu connais? Non? Kashf al-Shubuhat, c'est un livre écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il est vraiment important ce livre-là. C'est un des très bons livres que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit pour réfuter les shubuhat, les ambiguïtés et les doutes des mouchriquines à notre époque qui adorent les tombes et qui essaient de faire croire qui essaient de faire croire aux gens que le shirk il est correct, que c'est pas du shirk ce qu'ils font, d'adorer les morts, d'adorer les saints, de prier les tombes, ça c'est pas du shirk pour eux. Ils disent que c'est pas du shirk. Donc ils ramènent toutes sortes de choubouhades, des arguments qui sont complètement futiles et faux. Et le cheikh, il les a réfutés dans ce livre qui s'appelle Kashf al-Shubuhat. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre de Kashf al-Shubuhat par rapport à ça? Il leur explique que, yani, que ça c'est du shirk. Yani, qu'est-ce que c'est le shirk? Il dit, si tu veux débattre ou argumenter avec quelqu'un comme ça, la première chose que tu lui demandes, c'est qu'est-ce que c'est l'ibada? Parce que lui, il va dire non. Le fait que je prie avec, que j'invoque les morts, les saints, je les appelle, ils disent, ça c'est pas de l'adoration, ça, c'est juste je les appelle, c'est tout. Ça, c'est parce qu'ils savent pas la définition même de l'adoration, qu'est-ce que c'est. Donc si tu sais pas ce que c'est l'ibada, comment tu peux savoir si tu fais du shirk ou non? Tu peux pas savoir si tu fais du shirk ou non puisque tu sais pas ce que c'est. Le shirk, puisque tu sais pas ce que c'est l'adoration. L'ibad. Hein? Shirk fi l'ibad, huwa sarf naw'un min anwa' l'ibad li ghayr Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, c'est-à-dire que le shirk, c'est quoi? C'est d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Donc, juste le fait de vouer à une créature et à une chose en dehors d'Allah, une adoration quelconque, ça fait que c'est du shirk. Donc ça veut dire que peu importe l'adoration, ça peut être le dua, ça peut être le sacrifice, ça peut être le tawaf, ça peut être le vœu pieux, ça peut être la prosternation, ça peut être le recours, ça peut être l'amour, ça peut être la crainte, ça peut être l'espoir, ça peut être le tawakkul, ça peut être ar-raja, ça peut être n'importe quelle forme d'adoration que tu offres à autre que à Allah, eh bien tu vas faire du shirk et tu l'offres à quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des idoles, ça peut être des statues, mais ça peut aussi être des prophètes, des anges, ça peut être des djinns, ça peut être des êtres humains, ça peut être des prophètes, hein? Ça peut être des hommes pieux, ça peut être des tombes, ça peut être toutes sortes de choses, peu importe. Donc c'est pas comme certains qui pensent, ah non, le shirk c'est juste quand t'adores une idole. Non, même si c'est pas une idole, c'est du shirk quand même. Donc il faut connaître qu'est-ce que c'est la définition de l'adoration qui est authentique, et il faut savoir aussi qu'est-ce que c'est le shirk. Il y en a beaucoup de gens, tu leur demandes qu'est-ce que c'est le shirk, et je vous donne le défi, quand vous rencontrez des musulmans, posez-leur cette question: qu'est-ce que c'est al-ibad, qu'est-ce que c'est le shirk? Beaucoup de musulmans, ils ne sont pas capables de répondre à ces questions-là. Surtout, qu'est-ce que c'est le shirk? Ils ne sont pas capables d'expliquer. Et même le tawhid, peut-être si vous leur demandez, ils vont vous donner une définition qui est incomplète. Si vous leur demandez qu'est-ce que c'est le tawhid, wa alaykoum salam wa rahmatullah, vous dites qu'est-ce que c'est le tawhid, ils vont vous répondre, en grande partie, ils vont vous répondre par la rububiyya. C'est-à-dire, ils vont vous dire c'est de croire qu'il y a un Dieu et qu'il est unique. Et ça, c'est tawhid al-rububiyya. C'est pas le tawhid des prophètes que les prophètes ont enseigné pour appeler les mushrikines au tawhid. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il faut connaître ces choses-là si tu veux vraiment être préservé dans ta religion. Il faut connaître l'adoration, qu'est-ce que c'est le shirk, qu'est-ce que c'est l'ibada, qu'est-ce que c'est... Hein? Tu dois les connaître pour être capable de t'en écarter et de les éviter, le shirk. Hein, tu dois le connaître. Araftu shar la li sharri, voilà qui est tawqi. Donc il dit j'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Hudaïfa. Et ça c'est un poème, mais sinon la parole de Hudaïfa, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens avaient l'habitude de demander par rapport au bien, et moi je demandais à propos du mal par crainte que ça m'arrive. Hein. Ensuite, le cheikh il dit, كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer rien excepté lui et la bonté envers les parents. Il a donc débuté par le tawhid alladhi huwa haqqullahi azza wa jal. Donc il a commencé par le tawhid, après il a mentionné la bonté envers les parents. Ensuite le cheikh il dit wa haqqul ibad aw haqqul al ibad ala Allah wa hadha al haqq وهذا الحق تكرما منه وتفضلا هو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم ولم يجبه عليه أحد خلافا للمعتزلة. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le cheikh il explique que le droit des serviteurs sur Allah, ça c'est un droit que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à ses serviteurs par générosité de sa part et par grâce de sa part. Et c'est lui-même qui se l'est rendu obligatoire à lui-même par rapport à sa promesse. Sinon, personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Donc, personne n'a un droit sur Allah. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit « ma haqqul ibadi ala Allah », personne n'a un droit sur Allah excepté si Allah s'est mis ce droit-là sur lui-même et s'est donné l'obligation de le respecter. Hein? Et c'est ça que le cheikh est en train d'expliquer ici. Il dit c'est Allah qui donne ce droit-là par générosité de sa part et par grâce de sa part. Et c'est lui qui se l'est rendu obligatoire à lui-même par rapport à sa promesse. Mais personne ne lui a imposé quoi que ce soit. Il dit ensuite, لم يجبه عليه أحد خلافا للمعتزل الذين يقولون يجب على الله أن يفعل كذا وكذا. Contrairement aux Mu'tazila qui disent, oh, Allah est obligé de faire telle chose, il est obligé de faire telle chose. Donc eux, ils obligent Allah à faire certaines choses, selon leur logique. Et il n'y a pas de doute que ça c'est incorrect. Après le cheikh il dit أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا فيه يعني بشارة عظيمة إن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر ومن صغائر الذنوب سلم من العذاب ويعني سلم من العذاب سلامة مطلقة ولم يسلم من الشرك ومن لم يسلم من الشرك أو ومن يسلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد فهذا يسلم من العذاب المؤبد ومن الخلود في النار وأما من دونه ما دونه من الذنوب فإنه تحت المشيئة كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Oui, donc le cheikh il explique que le droit des serviteurs sur Allah, hein, on a dit que ça c'est une belle nouvelle, hein, c'est qu'il ne va pas les châtier tant qu'ils n'ont pas fait de shirk avec lui. Si ils n'ont pas fait de shirk avec Allah, Allah ne va pas les châtier dans l'enfer. Et il explique ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a été exempt du shirk, le shirk majeur ou le shirk mineur, hein, et des grands péchés parmi les kaba'ir, eh bien lui il va être exempté, hein, de châtiment. de façon absolue, totale. Il n'a pas fait de shirk, il n'a pas fait de péché, il n'a pas fait de bid'a. Donc dans ce cas-là, Allah il ne va pas le châtier. Il n'a pas fait de kaba'ir, il n'a pas fait de shirk, il n'a pas fait de kaba'ir, il n'a pas fait de péché. Donc celui qui est comme ça, il ne va pas être châtié de façon générale. Tandis que celui qui a été exempt du shirk, il n'a pas fait de shirk majeur, mais il a certains péchés parmi les kaba'ir, eh bien lui, il est exempt du châtiment éternel. Mais ça se peut qu'il ne soit pas exempt du châtiment, d'un châtiment quelconque. C'est-à-dire que Allah peut le châtier en enfer pour un certain temps. Et par la suite, il va sortir de l'enfer. Il ne va pas rester en enfer éternellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été dans le shirk, mais il a quand même fait des kaba'ir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, peut décider par sa justice de le châtier et de le punir pour un certain temps dans l'enfer. Mais il ne sera pas éternellement. Il dit, il va être exempté du châtiment éternel et de rester éternellement en enfer. Mais c'est possible qu'il soit puni pour ses péchés. Puis à la fin, il pourra rentrer au paradis. Donc, celui qui est dans le shirk, qui est mort dans le shirk sans se repentir, eh bien, il ne sera pas pardonné. Il ne sera pas pardonné. Tandis que toute autre personne, en dehors de celui qui a fait le shirk majeur, toute autre personne est sous la volonté d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, dans Sourate An-Nisa, le verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et il dit le Cheikh, لِأَنَّ الْآيَاتِ allati. Donc on a lu ça. Ensuite, on va terminer avec une note de bas de page qui est écrite ici. سُئِلَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ عَنْ تَعْرِفِ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ فَأَجَابَ كُلُّ مَا سُمِّيَ شِرْكًا فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يُخْرِجْ عَنِ الْمِلَّةِ فَهُوَ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ وَهَذَا هُوَ الضَّابِطِ. Donc le cheikh il explique que on dit que ici il dit on a questionné notre cheikh à propos de la définition du shirk mineur, qu'est-ce que c'est le shirk mineur. Et le cheikh il a expliqué, il a répondu en disant tout ce qui a été appelé ou nommé shirk dans le Coran et dans la Sunna et qui ne fait pas sortir de l'islam, alors ça veut dire que c'est une forme de shirk mineur et non une forme de shirk majeur. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera demain inshallah la suite de ça. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum barakatuh.